les auditeurices.
Ongi et Tori, comme on dit au Pays Basque. Et c'est oui, la numéro 64.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Les Pyrénées-Atlantiques.
Voilà. Exactement, exactement, mon cher ami. Le
Pays Basque. Alors, vous voulez mettre des chants basques, mais...
Mais non, finalement.
Non, enfin, finalement. Ça ne va pas le faire. On n'est pas trop pour. Comment ça va, mes amis?
Ben écoutez, avec ce soleil radieux, je trouve ça plutôt sympa.
C'est il fait trop lourd.
Préparer une émission ensoleillée et teenager un peu.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, la programmation.
Oui, ça va être plutôt fun.
Ouais, je pense.
Bon. On va aller se balader. Alors, beaucoup d'États-Unis cette année. Cette année,
n'importe
quoi cette émission. Faut ce qu'il faut. Chicago 70, Oslo 2005.
Oslo, c'est aux États-Unis?
Non, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est le seul à ma connaissance. Ah, par contre.
Non, Auckland en Nouvelle-Zélande.
Ah mince, bah, j'ai oublié de noter tes villes, mon brave. Donc San Francisco 99, Sydney 77, Londres 79, Seattle 65, Detroit 69 71. Et tu me dis, Eric?
Alors, nous, on va aller à Montcuq dans le Lot. On va aller à Londres, on va aller à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et j'oublie le dernier truc, à Londres, et deux fois à Londres,
d'accord,
fait, dans l'Hertfordshire, c'est-à-dire c'est un peu la Picardie de l'Angleterre.
Eh bien mon cher Bubu, tu vas commencer fort, n'est-ce pas?
Exactement, puisque moi je vous propose d'aller directement dans le nord de notre beau continent, et précisément en Norvège, en Europe, avec nos amis les Turbo Negro.
Bien sûr.
Alors, j'ai choisi le titre All My Friends Are Dead, voilà, sorti en 2005. Alors, évidemment, j'aurais pu prendre des titres des mythiques As Cobra ou Apocalypse Dudes, hein, mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois.
Ou I Got Erection.
Voilà, exactement. Alors, pourquoi prendre ce titre? Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle un tube. C'est-à-dire qu'il y a un riff accrocheur, des paroles d'une simplicité, on ne peut pas faire plus simple, un refrain digne d'un hymne de stade de foot, une fin qui est réellement terrible, tout ça en 2 minutes 35. Donc bah, je vous propose d'écouter tout de suite, ils seront enchaînés avec un autre groupe, mais qui lui viendra de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis je parlerai un petit peu de Turbo Negro, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur ce groupe un peu particulier. Et puis également sur le groupe qui est enchaîné avec ce fameux All My Friends Are Dead, sorti en 2005, Turbo Negro.
Allez. Where are your friends? Where are your friends? Where are your friends, man? What? What? Where are my friends? All my friends are dead. All my friends are
Eh bien, mon Dieu.
Ben voilà.
Excellent.
Hein, ça, c'est pas un début d'émission.
Ah, bah, les amis, mon Dieu, voilà. Oui. Ah, donc, Turbo Negro, en fait, c'est cette propension qu'ont les Scandinaves à faire de cette espèce de rock metal. Ils ont une.
Avec ces petites guitares là qui.
Oui. Alors, donc, c'est super.
Je dirais même mieux que les Turbo Negro sont les créateurs de ce qu'ils appellent le death punk.
Ah oui.
Def Punk, c'est un mélange de punk rock au fait et puis de hard rock. Alors bon, bah, c'est quand même un groupe qui s'est formé en 89, 88 même précisément. Au départ, ils ont hésité entre Nazi Penis et Turbo Negro.
Voilà.
Ils ont trouvé que Nazi Penis n'était pas assez vendeur. Ils ont pris Turbo Negro malgré la consonance raciste, si bien que le premier album, en fait, il n'y a pas les voyelles. Voilà. Mais bon, après, en 90, il y a le fameux Hank Van Helvet, le chanteur, hein, qui au fait va devenir en fait quasiment le leader, même s'il n'est pas membre originel de la formation. À son arrivée, bah, en fait, il change de nom. Il s'appelle Stierkampf pour sortir un EP et se rendre compte que c'est complètement absurde de changer de nom et ils reprennent Turbo Negro. Voilà, donc après ceci, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les fameux disques hyper connus, hein, Ascobra et Apocalypse Dudes. Voilà, donc ça tourne partout. Ils sont assez sulfureux. Moi, je les ai vus en concert au Gambetta à Paris en 96, où notre bon vieux Hans se mettait des feux de Bengale dans le postérieur. Donc c'est assez rigolo.
Je les ai vus en 96 aussi. Tu vois,
voilà, avec le guitariste Euroboy habillé en marin, un peu consonance un peu gay. Voilà, enfin c'était assez rigolo. Enfin
C'est Happy Tom maintenant qui s'habille en permanence en marin comme ça.
Donc voilà, c'était assez fun. Et puis ben, en fait le groupe en 99 fait une pause de 3 ans. Ils en ont vraiment marre. Et puis ben, en fait il s'avère qu'il y a des fans, notamment aux États-Unis et puis en Europe, qui commencent à fonder une espèce de fan club un peu comme la Kiss Army. Ça s'appelle les Turbo Jugend. Et plus particulièrement dans le quartier de Sao Paulo
à Berlin.
À Hambourg. Parce qu'en fait Hank est fan de l'équipe de foot de Sao Paulo. Voilà. Et puis en fait ben, les Turbo Jugend maintenant on en voit un peu partout dans les concerts, ils sont facilement reconnaissables, ils sont habillés avec des vestes en jean à manches coupées, des patchs de Turbo Negro partout.
Continue de jouer sur cette ambiguïté parce que Jugend, ça fait donc référence aux jeunesses.
Tout à fait, on est toujours. Voilà, le groupe se reforme en 2003 et donc du coup le 7e album, donc c'est donc le 2e de leur formation qui s'appelle Party Animals, d'où est tiré le fameux All My Friends Are Dead. Et puis au fait après, ben, Hank quitte le groupe en 2010, parce qu'il en a vraiment plein le dos. Et puis, en fait, il chope un nouveau chanteur qui assure plutôt pas mal, qui fait vraiment bien le job, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il joue en kilt, lui. Mais en fait, notre ami Hank décède à l'âge de 49 ans, en novembre 2021. Bon, certainement, après un passé quand même de toxicomanie à l'héroïne, voilà, assez lourd.
Mais parce que tous ses amis étaient morts.
Voilà, exactement.
Il y passe, hein.
Exactement. Et voilà. Et donc, du coup, ils étaient enchaînés, vous les avez reconnus. Alors, par.
J'ai peut-être un truc juste à dire, toujours en même temps que on écoutait Turbo Negro, je relisais un truc là sur leur. Le membre un peu permanent, Happy Tom, donc qui est déguisé en marin là, avec son look si particulier. Donc lui, il n'est pas norvégien en fait, parce qu'il a demandé il a été élevé aux États-Unis. Il est bien, il a bien toute la famille en Norvège. Mais la Norvège refuse la binationalité, donc il ne peut pas être norvégien. Voilà, c'est.
Il peut peut-être demander à être français bientôt.
Allez, je te laisse enchaîner sur Zengeria.
Voilà, donc vous avez reconnu donc les Zengeria avec le superbe titre Preacher Promise, une espèce de gospel punk énervé avec ce bon vieux fameux Marcus Durand au chant. Donc moi ce groupe j'adore. Hein. Donc c'est tiré de leur 4e album, le premier sorti sur Sub Pop en 99, Trendsets in Tongues, que a priori quand même leur meilleur album, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc ça fait, je trouvais que l'enchaînement était sympa pour un début dynamique. Et notez que on l'a déjà dit, mais Marcus Durand a assuré la voix pour
le
MC5 TKT, la première reformation,
non, également le pour le, en fait.
Exactement. Ouais, et puis il est actuellement en Europe en tournée, figurez-vous, avec qui? Je vous le donne en mille.
Eh bien, je ne sais pas.
Eh bien, il remplace la chanteuse des Detroit Cowboys qui est décédée.
D'accord.
Et c'est lui qui assure. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que lui, c'est un grand fan de rhythm and blues et de rock and roll. Et je pense qu'il doit assurer à mort. Il joue au festival de Sioc, par exemple.
Sioc, voilà, début juillet.
Début juillet. Bon, malheureusement, je suis jamais allé à ce festival, mais j'avoue que
avec les Gorillaz aussi, pas mal de trucs.
New Bombers, etc. Et j'avoue que de voir les Detroit Cowboys avec Marcus Durand, ça ne me déplairait pas. Donc Mathieu Dufault, si tu nous écoutes, merci de les organiser au mois de septembre prochain à l'Astrolab.
C'est
voilà.
Ta wishlist.
Voilà.
Mais écoute,
histoire
mais
de changer de la programmation de pop-up. Je ne dirai rien. Voilà, alors je te passe la main, mon cher.
Mais tu m'apprends un truc. Président. J'avais vu que les deux trois de Cobras devaient jouer. Je me disais, mais comment ils vont faire? Leur chanteuse est morte maintenant il y a un an et demi à peu près. Donc je comprenais pas trop. Bon, mais je comprends mieux. Allez, on change complètement d'univers. Vous savez que moi j'aime bien de temps en temps faire un petit zoom sur un personnage un peu moins connu. On avait parlé de Jackie Edwards, Nicky Hopkins, dans une moindre mesure, Mick Harvey, qui est quand même pas non plus un inconnu. Là, je vais vous parler d'un musicien irlandais, Mickey Waller Finn. Donc, dans les années 60, il apprend la guitare avec Jimmy Page. Et il démarre une carrière de guitariste de session à l'ombre du futur Zeppelin, avec qui d'ailleurs ils vont enregistrer aussi des morceaux. Il enregistre plusieurs projets sous le nom de Mickey Finn and the Blue Men. Et donc, avant de parler un peu plus donc, de ce fameux Mickey Finn, on va sans plus attendre écouter donc, trois titres auxquels Mickey Finn a contribué. Le premier date de 67 et correspond bien aux sonorités en vigueur à l'époque. Ça s'appelle Garden of My Mind. On écoute The Mickey Finn.
n'importe quoi. J'aurai le temps de faire l'amour une fois.
Et voilà, vous aurez probablement reconnu la voix inimitable de
Nino Ferrer.
Exactement, mon cher ami.
Donc désolé pour désolé pour les puristes, j'ai dû me résoudre à amputer lourdement ces deux chansons pour vous les faire écouter. J'arrivais pas à choisir l'une ou l'autre. Alors, je les ai amputées. Elles font 5 minutes ou 6 minutes chacune.
Oui.
Voilà, donc elles proviennent toutes les deux du premier album que Nino Ferrer et Mick Effin ont fait ensemble, enregistré en 72, donc l'album Nino Ferrer and Legs, c'est le nom du groupe.
Et oui, et il y a l'auditrice de la source qui me l'a offert, figurez-vous.
Ah bah écoute, elle, quel talent.
On
la salue ici. Donc cet album donc, de 72, il marque l'émancipation donc, du chanteur franco-italien. Il y chante en anglais sur le titre Listen to the Master, le premier qu'on a écouté. Voilà, et mes notes sont de l'autre côté, donc je retourne ma page en même temps que je vous parle. Puis il revendique son droit à faire ce qu'il veut dans le morceau, donc La Révolution. Dans les deux cas, les paroles tournent en dérision une partie de la culture hippie du début des années 70, hein, où fleurissent les gourous et où les idéaux communautaires prennent le pas sur les désirs de chacun. Donc la maison de disques et le public vont être assez peu convaincus en fait, par cet album, par cette réinvention de Nino Ferrer. Et à partir de là, donc, Nino Ferrer il va aller s'isoler tranquillou dans le Lot, et il a bien raison. Près de Montcuq, et il enregistrera librement ses albums avec Mick Effin et ses guitares flamboyantes. Ils vont travailler ensemble jusqu'à la mort de Nino Ferrer au milieu des années 90. Donc Mick Effin lui continuera donc une carrière faite de haut et de bas. Il enregistrera un album avec les Heavy Metal Kids en 75, qui est un album qui avait eu son petit succès dans les charts américains. Collaborera avec Steve Marriott, avec Jacques Higelin à la fin des années 70, début des années 80.
Oui, c'est comme ça que j'avais connu, moi, en fait.
Et il finira, donc amateur d'excès en tout genre. C'est d'ailleurs pour ça, a priori, que Nino Ferrer l'aimait beaucoup. Il y a un très beau texte qu'on peut trouver de Nino Ferrer qui en parle, qui dit voilà, visiblement, il n'était pas toujours facile à vivre. Donc, amateur d'excès en tout genre, il finira par payer l'addition, donc en 2013. Voilà, c'était la séquence sur Mick Effin.
Allez, bravo, mon cher Eric. Très bien, très bien. Lolo, alors toi, je crois que tu nous ressors non pas Dimitri Roussos, ton idole numéro 1, mais ton idole numéro 2.
Et vous savez pourquoi ? Parce que je suis obnu Diddley. Je suis obnubilé par le Diddley Beat de Bo Diddley.
Voilà.
Oui. Parce
que qui
pourquoi,
ne le serait pas.
Pourquoi ? Parce que je suis retombé dans ma discographie. Je papillonnais dans ma discographie. Et je suis retombé sur cet énorme album qui s'appelle The Black Gladiator.
Ah oui.
C'est notre ami Bubu qui me l'a offert d'ailleurs.
Non, c'est pas vrai.
Non, si.
Moi, je m'en souviens même.
Mais quelle générosité.
Si. C'est toi qui m'as fait découvrir. Ou un album effectivement très lourd, très soul, avec grosse production, de l'orgue, etc. Bon, je vous rappelle, Elias McDaniel, hélas McDaniel, donc dit Bo Diddley, originaire du Mississippi, s'installe à Chicago, et il est connu parce qu'il bricole lui-même les tout premiers effets trémolo vibrato électronique avec un réveil et quelques pièces de mécanique. Et donc il crée son premier son spécifique hyper saturé. Donc Bo Diddley adopte alors le rythme dit jungle, où la guitare est utilisée comme une percussion, le fameux... Voilà. Donc j'ai pas pu m'empêcher de vous passer le premier morceau donc de cet album qui s'appelle The Black Gladiator, avec une pochette d'enfer où effectivement il est tout en cuir et en métal.
Un peu sadomaso la pochette.
Sur un fond jaune vif, ça va peut-être être terrible. Voilà. Et donc on va écouter ce morceau qui s'appelle Elephant's Man, Bo Diddley.
Made it.
amusant cette version du morceau qui s'appelle Bodyless, simplement.
Tout à fait. Ouais, je crois qu'on la retrouve sur les compiles genre Bamba des compagnies. On voit Luxe Intérieur a dû l'écouter.
Hein, oui, je pense. Ouais. Mais c'est drôle, ce mélange d'une guitare hyper punk et puis le petit ding ding ding, le petit piano tequila derrière.
Elle est super bien. Elle est très très bien.
C'est une bonne version. Donc c'était on a écouté d'abord Bodyless, album de 1970, Black Gladiator avec Elephant Man. Et là c'était les Juveniles, groupe garage US, un quintet, hein, basse, batterie, guitare, orgue, piano, hein, comme vous l'avez vu. Ils sortent deux EP en 65 et en 66, donc ça c'est de 65, groupe de Seattle, et ils signent sur le label qui s'appelle Jerden. C'est le label qui a été fondé par Jerry Denon, d'où le Jerden, et par la chanteuse guitariste Bonnie Guitar, assez surprenant, fondée en 1960. Et en fait, sur les trois premières années, entre 61 et 63, ça va de mal en pis, ils vendent pas très bien. Les groupes qui passent sont assez obscurs, ça marche pas très bien. Et ils ont l'idée de signer un 47 tours des Kingsmen qui s'appelle Louis Louis.
Non, voilà. Quelle bonne idée.
Oui. Et là, c'est reparti, et en fait, ils ont continué jusqu'en 71. En fait, quand on regarde le nom des groupes, hein, si vous allez sur Discogs et vous regardez Jerden Records, déjà les noms vous les connaissez pas, et à mon avis ils sont tous sur les compiles Nuggets, hein, à mon avis.
Darwin and the Cupids, tu vois, j'y suis.
Darwin and the Cupids, oui, j'ai vu ça.
The Adventurers, The Exotics.
Ouais, non, parfaitement méconnu. Mais bon, spécialiste du garage, et voilà, donc label intéressant à suivre, donc 65. Le label a été recréé dans les années 90, j'ai lu ça quelque part. Voilà, donc très bonne version de Bodyless par The Juveniles.
C'est toujours un plaisir d'écouter Bodyless.
Exactement. Ah ouais, exactement.
Ça fait partie de nos.
Je suis obnubilé.
Eh ben, écoutez, on l'a pas fait exprès, mais il y a un point commun avec ma programmation qui suit et Bodyless, c'est le fait que l'un des guitaristes joue avec une guitare Gretsch, donc avec les mêmes micros. Sauf que celui-ci, il a enlevé tous les micros qui ne lui servaient pas, il a gardé que le micro bridge, il a également enlevé les contrôles de volume et de tonalité pour brancher directement sur la sortie jack. Il joue avec une Gretsch Firebird. Les pros ont reconnu.
Malcolm.
Il s'agit de Malcolm Young, le frère d'Angus Young. Alors,
il
n'y
a pas de guitare rectangulaire, lui.
Non, elle n'est pas rectangulaire. Par contre, il a bien customisé, il a même appelé The Beast. C'est pas pour rien. Et alors maintenant, Gretsch revend des guitares neuves avec des trous dedans. Enfin, c'est absurde.
C'est comme les jeans avec des trous, quoi.
Voilà, exactement. C'est le même concept. Exactement. Oui, voilà. Donc, je vous parle de AC/DC pour les
anglo-saxons. Depuis le temps que tu nous dis. Hein,
oui. On est déjà là sur 64. On n'avait jamais écouté ACDC.
ACDC pour les Français, voire ASDES également. Hein, ça se dit aussi parmi nous. Bah oui, parce que moi je suis un fan depuis que j'ai 8 ans ou 9 ans de ce groupe et que j'aime toujours écouter. Je tiens juste à préciser que pour moi, ACDC est mort en février 80, le même jour que Bon Scott.
Eh oui.
Puisque ACDC sans Bon Scott,
c'est comme...
Non, c'est pas ça, non, c'est comme Dead Kennedys sans Jill O'Grafer, il manque quelque chose.
Ah, oui.
Voilà. Et donc, d'ailleurs, ce bon vieux Bon, il est décédé donc à Londres dans une R5, dans son vomi, après avoir fait une nuit de beuverie avec Bernie Bonvoisin et les gars de Trust pour l'adaptation en anglais de l'album Répression où il y a Antisocial notamment.
C'est un peu la faute de la France quand même, parce qu'une R5, Trust.
Ouais, il y a un moment, voilà. Enfin bon. Voilà, donc je vais pas m'étaler sur ACDC évidemment, puisque il suffit d'aller comme Lolo sur Wikipédia pour avoir les informations. Elle est bonne ça là. Voilà, mais tout simplement pour vous dire que là pour moi le plus grand album de ACDC, c'est le troisième en version mondiale ou le quatrième en version version australienne, c'est l'album Let There Be Rock. Et puis avec, donc j'ai choisi le morceau Dog Eat Dog que j'avais déjà passé par la version Crom Cranks au début de Roll Mops, donc enregistré à Sydney par Harry Vanda et George Young, le frangin aîné des frangins des frères Young, et puis Harry Vanda qui était également avec George Young membre des Ibits. Donc celui-ci est enregistré à Sydney, et on retrouve donc les deux frangins, Bon Scott, Phil Rudd à la batterie, parce que voilà,
faut pas oublier,
on parle des frères Young et de Bon Scott, mais n'oubliez pas que Phil Rudd c'est un pilier, pas parce qu'il est à la batterie, mais d'ACDC, puisque quand il le vire du groupe parce qu'il est complètement toxico et alcoolo, en fait, pendant 10 ans, le groupe a une traversée du désert terrible, et quand Phil Rudd revient, le disque est disque d'or. Donc en fait, c'est surtout, enfin, Phil, c'est
ouais,
un tout. C'est
il,
un tout.
Il apporte un truc.
Voilà, exactement. Donc, voilà. Et puis, Mark Evans, c'est la base pour cette formation-là. Mark Evans s'est viré juste après l'enregistrement. Voilà.
Je crois que c'était Jack Cliff Williams.
Non, non, non. D'accord. Il est viré juste après. Et puis, donc, c'est Cliff Williams qui le remplace pour, voilà, la formation la plus fabuleuse d'ACDC avec l'album notamment Highway to Hell ou le live qui est sorti juste avant If You're in Blood. Donc le titre là, ce sera Shut Down in Flames, qui lui est enregistré à Londres et non plus produit comme tous les premiers albums par Vanda Young, mais produit par Robert Mute Lang, qui à l'époque était un petit peu en mode, hein. Il produisait pas mal de groupes de la New Wave of British Heavy Metal Generation, et également aussi des groupes comme Foreigner, etc. Enfin bref, c'était pas évident. En tout cas, il leur fait une prod terrible, donc avec cet album Highway to Hell, avec le titre donc Shut Down in Flames. Donc je vous invite à écouter en 77 ACDC, et mon cher Eric, je t'invite à écouter la partie de batterie de Dog Eat Dog qui sera enchaînée avec Shut Down in Flames, avec ce fameux petit à la fin de la chanson. chèvre à la fin. Voilà. Alors, donc les gars, je vais vous dire un truc. Hein. Quand on a 15 ans, qu'on vit dans le Berry, il n'y a rien de plus excitant que d'être au guidon de sa 51 Black avec comme seul casque celui de son Walkman et d'écouter AC/DC.
Sur ta 103 Sport.
Non, 51 Black, monsieur. Motobécane.
C'était entre les, pendant qu'on écoutait le morceau, Laurent m'expliquait sur la tournée des Crybabies en 73. Ils ont rencontré un petit jeune comme ça dans le public et
saut que tu es.
Et Alain lui a pris l'accord de mi mineur, quoi. Ça lui a bien mis un quart d'heure, mais après le gamin, il avait quand même l'air d'avoir le truc un peu.
Ouais, mais je les ai bien soutenus au départ à CDC.
Voilà. Alors donc à CDC, oui, donc Malcolm Young, le roi du riff, hein, avec un tirant de corde 12-58 pour ceux qui connaissent, et voilà. Et surtout que des accords ouverts. Et puis cette capacité là à faire un shuffle terrible. Enfin voilà. Donc petite transition. Après, je vous laisse la main, mon cher Eric. Savez-vous que là, on a donc écouté un groupe australien. Eh bien, il y a un événement qui se passe la semaine prochaine au Dropkick, précisément mardi 2 juillet, puisque nous avons des énormes, parce qu'ils sont gros quand même, mais également talentueux, des énormes australiens qui déboulent. Ce sont les Cosmic Psycho, Psycho qui seront au Dropkick le 2 juillet avec RNC en première partie et puis Delorto également. Donc surtout, venez voir ces stars du punk rock australien au Dropkick.
Amateurs de pintes. Vous avez passé pour l'émission spéciale alcool.
Exactement.
Allez, nous on change complètement d'ambiance. On va aller sur des choses un peu plus délicates. Voilà, donc après toute la pluie qu'on a ramassée sur la gueule au cours des derniers mois, j'ai eu envie de vous passer des morceaux un peu ensoleillés en ce début d'été. Donc je vous rassure, pas de lambada, pas de zouk chaloupé. Non, des morceaux qui assument une certaine légèreté tout en faisant preuve d'une délicate sophistication. Qu'est-ce que c'est beau. Donc le premier groupe qu'on va écouter nous vient donc du Hertfordshire. C'est donc ce que j'appelle la Picardie britannique. Hein, donc c'est cette région immédiatement au nord de Londres. Donc de mon point de vue, le groupe qu'on va écouter, donc, ce sont certainement les seuls Anglais à avoir su rivaliser avec les Beach Boys en termes d'harmonie vocale. Je veux évidemment parler des Zombies. Le groupe donc structuré autour de Colin Blunstone, Rod Argent et Chris White. Une belle bande de losers encore. Il faut quand même savoir, donc, le morceau qu'on va écouter est tiré de l'album Odyssey and Oracle, leur troisième album, enfin deuxième ennemi on va dire. Quand il sort, en fait, ils sont déjà séparés du fait du manque du succès du groupe. Donc cet album sort donc en 68 et c'est pourtant devenu depuis un disque considéré souvent comme un disque culte. On écoute sans plus attendre donc ce Care of Cell 44, une chanson qui parle de prison, d'une femme qui attend son mari qui sort de prison et qui espère le moment de la sortie. Le morceau qui ouvre le dernier album donc des Zombies 1968. Les Zombies. Yeah.
Parfait, parfait.
Voilà, on vient d'écouter The Cigarette Duet. Donc, It's Just a Cigarette. On a ce duo autour de cette question. Elle, elle fume une cigarette, lui, il a arrêté. Elle dit, j'arrête quand je veux, mais c'est un peu compliqué. Une petite ritournelle néo-zélandaise interprétée par Princess Chelsea et Jonathan Bree. Donc, l'inspiration de ce titre est évidente. Hein, Lee Hazlewood et Nancy Sinatra,
oui,
on
retrouve oui.
typiquement la touche. Donc, ce titre est issu, c'est un titre de cette chanteuse néo-zélandaise, Princess Chelsea. C'est sorti en 2011. Elle est accompagnée, donc, je vous l'ai dit, par Jonathan Brick, que vous avez peut-être déjà vu à Orléans.
Tout à
fait. Il y a 6-7 ans.
Ouais.
Il était en combinaison intégrale spandex.
C'est ça.
Il était à Hop, je crois, au théâtre,
Exactement.
Si je me souviens bien.
Et c'était très, très bien.
Voilà, donc c'était un petit truc tout léger. Après toute la brutalité de vos programmations respectives, cette petite chanson apporte un peu de délicatesse et de naïveté dans cette Roll Mops estivale.
Je voulais revenir aussi sur le morceau des zombies là, c'est extraordinaire. Moi, Colin Blunstone, chanteur, moi j'adore sa voix. Et puis Rod Dargent, c'est un virtuose, hein.
Voilà.
Formation jazz au départ, et puis là c'est un morceau effectivement 68. On se dit rien à envier aux Beach Boys.
Voilà, on sent quand même l'influence de The Pet Sounds, même si l'enregistrement sont à peu près dans la même époque, mais voilà, c'est du beau boulot européen sur ce domaine-là. Allez, on
Exactement,
écoute,
mon gars.
On met notre maquillage noir et on repart dans les années 70.
Oui, oui, oui.
C'est ça.
J'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça le concert qui a eu lieu à Toronto en 70, autour de John Lennon avec une flopée de vieux rockers, Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, etc. En première partie, il y avait une espèce de groupe de jeunes gens dégingandés avec des grands cheveux qui crachaient du feu, un peu maquillés, etc. C'était une des premières apparitions d'un groupe qui s'appelle Alice Cooper.
Yeah.
Oui, parce que n'oublions pas que Alice Cooper à l'origine est un groupe de Detroit, Michigan, qui comprend Vincent Damon Furnier au chant et à l'harmonica, Glenn Buxton et Michael Bruce aux guitares, Denny Dunaway à la basse et Neil Smith à la batterie. Donc le groupe sort son premier album en 69, mais ce n'est vraiment qu'en 71 qu'il entre véritablement sur le devant de la scène avec un premier grand succès international qui s'appelle I'm 18, titre issu du troisième album du groupe qui s'appelle Love It to Death. Le succès confirmé l'année suivante avec le fameux single School's Out, hein, tiré de l'album éponyme.
Qu'on avait écouté l'an dernier pour l'émission spéciale été.
Ouais, tout à fait, en 72. Mais en 73, Billion Dollar Babies apporte un succès commercial du groupe qui atteint là son apogée. Et le groupe se dissout en 74. Hein, et à partir de là, Vincent Furnier entame une carrière solo et fait modifier son état civil afin qu'Alice Cooper devienne légalement son nom.
Donc, bravo.
Ouais, donc, moi j'ai toujours cru qu'Alice Cooper c'était le chanteur d'un groupe. Enfin, c'était Alice Cooper et son groupe derrière.
Ouais, ouais.
Non, c'est en fait au départ le nom du groupe. Ils ont quand même fait 9 albums entre 69 et 74. Hein. Ouais.
Et dont les 3 que tu as cités sont vraiment la trilogie.
Ah, puis Killers.
Love It to Death, Killer, Billion Dollar Baby. C'est vraiment des albums. Enfin, ouais. C'est énorme. Quoi.
Mais on va commencer par un morceau qui est très étonnant. Sorti de leur premier album qui s'appelle Pretty's for You en 69. Vous allez voir, on a vraiment du mal à reconnaître le Alice Cooper. Et après, on aura You Drive Me Nervous du LP Killer, justement, en 71.
Voilà, et puis on se dira au revoir là-dessus, les amis.
Oui.
Et puis, donc, la prochaine Roll Meuf, c'est à 65, ça sera donc.
Le 10 juillet.
Eh ben, parfait.
Est-ce qu'on mettra que des morceaux de 1965?
Va savoir. C'est une drôle d'année, je crois. Allez, des bisous, les gars.
Gros bisous. Rendez-vous le 10 juillet.
Yeah.